Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Rencontrer son âme, se connaître au plus profond de soi, trouver l'unité. Nous avons tous ce rêve d'harmonie intérieure, d'une réalité apaisée et apaisante. Le rêve d'éveil, une clé pour nous y amener. Pour nous parler plus précisément de cette approche, de cette conception et de cette création, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Gavilan, psychothérapeute, astrologue, auteure, formatrice, co-créatrice du rêve d'éveil avec Michel Tabé. Bonjour.
Bonjour Daniel. Merci d'ouvrir cette fenêtre sur soi. Je suis vraiment ravie.
Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Pour nous parler d'un sujet qui n'est pas forcément connu de nos auditeurs, qui s'appelle le rêve d'éveil.
Le rêve d'éveil, oui.
On va déjà revenir un peu plus à vous. Vous êtes psychothérapeute.
Oui.
Vous avez un parcours de vie et professionnel incroyable.
Varié, en tout cas, oui.
Varié. Et vous avez été amenée à développer, à co-créer avec Michel Tabé.
Oui.
Le rêve d'éveil.
Tout à fait.
On va aller plus en profondeur vers vous. Comment est-ce que vous en êtes arrivée là ?
Alors, c'est une longue histoire qu'on va raccourcir vite. Disons qu'il y a trois étapes fondamentales. La première étape, dans ma vie, j'ai exploré beaucoup de métiers et j'étais chef d'entreprise avec des salariés. Et puis, un problème de santé m'a fait complètement bifurquer. Je suis retournée à la fac à 39 ans exactement, en compagnie de mon fiston d'ailleurs. Et en psycho, et en parallèle de ça, j'ai vécu plein de formations diverses et variées, telles que le décodage biologique, entre autres, et sur plein de techniques et d'approches de soi, tout en même temps encore en apprenant l'astrologie. Donc il y a eu une effervescence à cette époque. Et très vite, j'ai été émerveillée de la synergie entre l'astrologie et la thérapie, la psychothérapie. C'est pas une astrologie prévisionnelle, c'est une astrologie psychologique en fait que je fais. Les deux se marient très bien, mais il me manquait un petit morceau, une clé essentielle, à savoir que là, je voyais très bien ce qui se passait pour la personne, les problématiques qui émergeaient, mais il restait un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est comment je fais pour aller mieux. Et ça a été le grand déclencheur qui est le début de ma troisième étape dans ma vie, c'est la rencontre avec Michel Tabé. Lui étant psychopédagogue, docteur en psychopédagogie et astrologue, quand nous nous sommes rencontrés, il y a eu vraiment une révélation pour moi dans le sens où il avait la pédagogie que j'attendais depuis toujours, que j'espérais depuis toujours, mais dont quelque part, j'avais presque renoncé à croire qu'elle existait. Et en fait, lui, non, il m'a montré qu'elle existait. Et non seulement qu'elle existait, mais ce qu'elle pouvait ouvrir. Et lui pratiquait déjà le rêve éveillé, énergétique et astrologique. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais rencontré, parce qu'il y avait un lien avec l'astrologie. Et lorsque j'ai rencontré le rêve, en fait, ça a été un déclencheur fantastique. Et ça a été un propulseur dans ma propre histoire où j'ai vraiment la sensation d'avoir amené le bulldozer à l'intérieur de moi pour faire sortir tout ce qui était coincé, vieux, ancien, désuet, mais qui me polluait. Et le faire sortir au grand jour pour pouvoir me le réapproprier en tant que qualité, non plus en tant que chose qui pèse. Voilà, et donc nous sommes devenus presque immédiatement partenaires. Pendant 2 ans, nous avons exploré le rêve éveillé tel qu'il le pratiquait. Et puis, on avait constaté qu'en fait, il y avait des ouvertures de conscience, déjà beaucoup, beaucoup d'ouvertures de conscience qui émergeaient très fortement, avec parfois des phénomènes puissants tels que des montées de Kundalini, des choses comme ça, qui n'étaient pas si faciles que ça à gérer. Et on s'est dit, vraiment tous les deux, qu'en fait, il était important de mettre en avant quelque chose qui puisse servir de garde-fou, de quelque chose qui vienne poser un axe central, en fait, dans le rêve. Et cet axe central, en fait, ça s'est avéré être le contact à l'âme. Tous les deux, nous avons toujours œuvré avec le contact à l'âme. Sauf que dans le rêve éveillé énergétique ou astrologique, il n'était pas assumé, entre guillemets. Dans le rêve d'éveil que nous avons créé ensemble, nous assumons haut et fort le fait qu'en fait, nous travaillons avec nos âmes qui se mettent en contact et qui, de par leur intelligence propre, vont nous guider dans ce voyage qui est le rêve d'éveil. Voilà, je pense avoir juste... Enfin, je ne sais pas si c'est suffisant, mais ça éclaire un petit peu le parcours.
Alors, en effet, on va juste revenir sur quelques explications, peut-être pour nos auditeurs.
Oui.
Déjà, le rêve d'éveil, avant de parler du rêve éveillé,
oui.
Qu'est-ce que c'est ? Parce que là, on a eu une définition vécue de l'intérieur.
C'est ça.
Simplement, quand on est à l'extérieur, on a ce point d'interrogation, se dire « oui, mais qu'est-ce que c'est ? »
Qu'est-ce que c'est ? Alors, faire un rêve d'éveil, c'est... rentrer dans un état modifié de conscience tout en étant en pleine conscience. C'est en quelque sorte faire un rêve comme un rêve nocturne, c'est-à-dire sans guide volontaire. Dans un rêve nocturne, on ne décide pas ce qui se passe. Dans un rêve d'éveil, c'est la même chose. On ne décide rien. Par contre, on vit le rêve en pleine conscience de manière à pouvoir en ramener la substance dans nos vies beaucoup plus facilement qu'avec un rêve nocturne qui a tendance à s'évaporer très très vite. Le changement de conscience, il y a plusieurs états de conscience, je vous passerai les détails parce que ça c'est très connu, mais ce qu'il faut comprendre c'est que le simple fait de fermer les yeux, ça fait changer de la vibration du cerveau et donc on, la fréquence du cerveau et du coup, quand on change de fréquence, on ne captera pas la même radio par exemple. Donc là en fait, tout va se dérouler les yeux fermés de préférence. Et une séance de rêve d'éveil, en fait, la première chose à faire, la plus importante en quelque sorte, c'est de déterminer ensemble quelle sera l'intention de ce voyage. C'est normal, quand on part en voyage, on définit une destination, c'est tout à fait logique. Ben là, c'est exactement la même chose. On va définir la destination de ce voyage et on va faire attention en définissant cette intention. On va être vigilant dans le fait de ne pas mettre en relief le comment, mais bien le où je veux aller.
La destination.
La destination, c'est très important, parce que très souvent, le cerveau lui va dire toujours comment, du genre, je veux me libérer de mes liens toxiques, alors qu'en réalité, ok, tu te libères de tes liens toxiques, mais qu'est-ce qui se passe après ? À quoi ça va te servir ?
Voilà, qu'est-ce qu'on en fait ?
Qu'est-ce
qu'on va mettre à la place ?
Exactement.
Ça reste de grosses interrogations quand même, pour beaucoup de personnes qui amorcent ce travail,
oui,
en effet.
Beaucoup. Et donc là, l'accompagnateur va être vigilant à bien définir l'intention, de manière à ce que ça colle parfaitement à l'énergie de la personne et que ça réponde à son désir. Quand l'intention est posée, c'est un petit peu comme quand on fait une lettre, on écrit l'adresse sur la lettre et on la met dans la boîte aux lettres et on ne se soucie pas de savoir comment le facteur va l'amener. Ben là, c'est exactement la même chose. Une fois que l'intention est posée, on l'oublie. Et le voyage va se passer sans avoir du tout à cœur de relier l'intention. Ça, c'est vraiment absolument pas le but du jeu. Et du coup, dans une séance individuelle, nous allons faire un petit temps de relaxation. L'accompagnateur va faire un petit temps de relaxation de manière à bien s'apaiser et à savourer le fait que je suis en contact avec moi-même et que c'est un moment de plaisir et de rencontre avec moi. Et puis, au bout d'un petit temps, on va ouvrir simplement la porte en disant, ben voilà, dès que quelque chose est là, dès que quelque chose est présent, une image, une sensation, un paysage, un être, peu importe, je vous demande de me le décrire. Et à partir de là, le rêveur va se mettre à raconter ce qu'il vit dans son voyage. Et l'accompagnateur va se positionner en position de lanterne qui éclaire le chemin de notre rêveur où qu'il aille. De manière à ce qu'il ait la conscience qu'il n'y va pas tout seul, qu'il est en présence de son âme et de sa lanterne qui lui permet d'aller même dans les endroits les plus sombres si toutefois son âme a décidé de l'amener là. L'accompagnateur va évidemment... Alors, il y a mille façons de rêver. Certains vont être très kinesthésiques, d'autres vont voir des formes géométriques, d'autres vont voir des images, des scénarios, des contes, tout est possible. Et il y a une chose qu'il est absolument capital de savoir, c'est qu'il n'y a pas de rêve raté. Tout rêve que l'on fait est un trésor. Il contient un trésor et l'accompagnateur va aider le rêveur après, à la fin de la séance, lorsque le rêve sera terminé, à révéler le trésor contenu dans ce rêve. Voilà, c'est très raccourci, mais je pense que c'est vraiment l'essence de ce travail. Et ce qui est très très important aussi, c'est que dans l'approche de rêve d'éveil, il y a vraiment l'importance est posée sur le fait que le rêve est un temps de contact avec le grand tout, avec les mémoires karmiques, avec la source, avec les ressources, avec absolument tout. Et dans ce temps, notre âme va nous conduire dans un endroit que nous avons besoin d'explorer. Ce peut être un endroit ressources, comme ce peut être un endroit de trauma, par exemple, mais qui va être accompagné par notre âme. Et cette quête, cet endroit, ce lieu, ce que l'on va chercher, il nous appartient après à nous, rêveurs et accompagnateurs, de le faire descendre dans nos vies pour qu'il s'incarne dans nos vies et qu'il change nos vies. Il ne s'agit pas de parler de spiritualité pour une fuite et pour se sentir mieux. Non, c'est vraiment une spiritualité qui descend dans nos vies et qui va s'incarner d'une façon tout à fait remarquable. Alors plus ça va, plus ça s'incarne vite dans nos vies. Et évidemment... je peux par exemple faire un rêve dans lequel ça va être présenté sous la forme d'un conte. Et ce conte-là, il est à mille lieues de ma vie, évidemment. N'empêche que si par exemple je me trouve face à un dragon dans mon histoire, dans mon conte, je peux aborder ce dragon de 10 000 façons, je peux vouloir le tuer, je peux vouloir jouer avec lui, je peux vouloir m'en faire mon ami, au contraire je peux être terrorisée, enfin bref, tout est possible. Et le choix que je vais faire dans le rêve, la solution qui va émerger et ce que je vais vivre dans le rêve parle exactement de ce qui se passe dans ma vie quand je me retrouve face à mon dragon incarné sous n'importe quelle forme dans ma vie réelle, on va dire. Du coup, ce qui aura émergé dans le rêve sera une ressource directe à intégrer dans ma vie. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que quand c'est réalisé dans le monde subtil, il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à laisser faire, à laisser cette descente de solution qui a déjà pris corps dans le monde subtil, la laisser descendre dans ma vie incarnée. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais...
Si, dans la diagonale, ça, c'est quand même assez explicite. Exactement, donc tu parles de rêve, hein, c'est la base du rêve éveillé. Comment faire la différence, et est-ce qu'il y a une différence entre la construction mentale, l'imagination,
oui,
et l'état de conscience modifié, où, bah, comme là tu donnes l'exemple du dragon et de la notion du conte, quand on se raconte finalement quelque chose, est-ce qu'il y a la possibilité de faire une dissociation d'informations, ou est-ce que c'est la même chose?
Alors, il y a beaucoup cette question qui émerge, oui mais c'est mon mental, donc est-ce que c'est juste, je peux tout créer, ça n'a pas de sens? Et personnellement, dans le rêve d'éveil, ce à quoi j'ai pu assister depuis maintenant plus de 20 ans, c'est le fait qu'en fait, tout ce que nous allons créer, qu'il soit issu de notre mental basé sur du vouloir quelque part, ou qu'il soit issu sur quelque chose qui s'impose, est valable, est totalement valable et est parfaitement juste par rapport à ce qui se passe pour moi à cet instant précis de ma vie. Donc il n'y a pas à craindre d'avoir trop de mental. Il s'agit simplement de... Parce qu'en fait, lorsque je parle, mon mental est au service de ce qui se passe dans ma tête, de mon imaginaire, notamment, normalement. Si mon imaginaire n'est pas vraiment prolifique, on va dire, on peut très bien amorcer la chose à partir d'un mental qui part d'une histoire déjà vécue, qui part d'un film que j'ai vu hier, peu importe. N'importe quoi est bon pour démarrer et ce n'importe quoi, en fait, sera très révélateur de ce qui a besoin de bouger chez moi, quoi. Parce qu'en fait, on en revient toujours à la même chose. On a des milliards de scénarios possibles, mais on ne va pouvoir en déposer qu'un seul ce jour-là. Et il sera exactement la réponse à l'intention que l'on a posée. Mais ça, on le découvrira à la fin.
Donc tu parles d'intention, quelle peut être la différence s'il y a avec une hypnose régressive?
En hypnose, la personne elle va décider que pour arriver à tel objectif, il faudra descendre la personne à état modifié de conscience à tel endroit. Dans le rêve d'éveil, c'est absolument pas le cas, puisqu'en fait c'est notre âme qui va décider, elle, à quel endroit, à quel état modifié de conscience nous allons être pour vivre ce que nous avons besoin de vivre aujourd'hui. Certaines fois, on a l'impression juste de fermer les yeux, de raconter quelque chose. On n'a pas du tout l'impression d'être ailleurs. Et pourtant, Et pourtant, c'est en découvrant à quel point le scénario que nous avons joué aujourd'hui, même si par exemple je suis restée muée pratiquement tout le temps, en fait ça aura beaucoup de sens et ça répondra à l'intention. Et ça, c'est le rôle de l'accompagnateur après pour de révéler en quoi ça a vraiment du lien et qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là.
Mais là, en plus, tu parles de mutisme. Il se peut que certaines personnes oui. n'arrivent pas à exprimer verbalement oui. Ce qui se passe à l'intérieur d'eux.
C'est tout à fait possible. Ça m'est arrivé une fois où une personne a pleuré tout le long de la séance sans pouvoir prononcer un seul mot. Et j'ai tendu des perches doucement, des petites perches, des questions, des choses comme ça. Ça n'a pas répondu. J'ai laissé faire. J'ai même invité à continuer, à déposer ça. Et à la fin de la séance, j'ai juste dit, bon, nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais nous savons une chose, c'est que c'est en réponse directe avec l'intention qui a été posée. Donc moi, ma suggestion, c'est vraiment d'accueillir ça et de voir ce qui se passe dans la nuit, parce que très souvent, ça ouvre la porte du rêve nocturne, de faire un rêve d'éveil. Et effectivement, le lendemain, elle m'a appelée et on a eu une longue conversation. Et c'est là qu'elle m'a avoué qu'en fait, ça répondait directement parce que c'était la première fois qu'on lui laissait la possibilité d'être telle qu'elle était et de ne pas vouloir qu'elle soit différente. Et que ça avait un lien direct avec son intention posée. Et que du coup, c'était très guérisseur et qu'elle avait fait un rêve fantastique dans la nuit. Et voilà. Et du coup, après, on a repris rendez-vous, on a continué des rêves. Et là, elle avait tout à fait la parole. Mais ça a beaucoup, beaucoup de sens en fait. Tout est juste. Tout est juste.
Dans cette justice, dans cette justesse même, tu parlais notamment tout à l'heure, mais on peut retrouver sur ton site, dans les descriptifs, on voit beaucoup le terme de voyage.
Voyage, oui.
voyage avec cette connotation un petit peu de départ vers quelque chose pour oui. aller à oui. un endroit. Et quel est-il ce voyage ? Est-ce que c'est le même pour tout le monde ? Ou est-ce que finalement on est sur de la notion de voyage dit initiatique ? Qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, c'est un voyage, ça c'est certain, c'est un voyage vers soi-même. En cela, il est commun à tous et en même temps différent pour chacun. Et c'est clairement quelque chose d'initiatique. J'ai pratiqué, je suis psychothérapeute, j'ai une boîte à outils vraiment très bien remplie avec plein d'outils. Et ce que je trouve de fantastique avec le rêve d'éveil, c'est la liberté qu'il offre et à travers cette liberté, la capacité au fil des rêves de retrouver notre autonomie, de sortir quelquefois des rôles de victime dans ma vie à des endroits et de reprendre ma part de responsabilité en laissant de côté le côté culpabilité quand même, parce que ça va souvent de pair. Et en fait, là, si je reprends ma responsabilité, je reprends mon pouvoir de création, de guérison, de joie, d'amour surtout. Parce qu'en fait, ce à quoi j'ai pu assister, c'est que le rêve d'éveil, c'est vraiment pour moi une invitation profonde à réintroduire l'amour dans nos vies et dans nos corps physiques. Amour qui a trop souvent déserté, qu'on a trop souvent laissé de côté en réponse à des traumatismes divers et variés. Et c'est pour moi une conviction absolue que l'amour est vraiment le guérisseur dans ce voyage. C'est l'amour qui guérit, c'est pas l'accompagnateur, non du tout. C'est vraiment, l'accompagnateur n'est qu'une lanterne.
N'est qu'un accompagnateur.
C'est ça,
en aucun cas. C'est valable dans toutes les thérapies de toute façon.
Oui et non, plus ou moins dans le sens où il y a quand même pas mal de thérapies que j'ai pu rencontrer dans lesquelles il y a un minimum de vouloir. Vouloir secourir l'autre, vouloir qu'il arrive quelque part, vouloir qu'il y arrive le mieux possible, le plus vite possible. Tout ça sont des vouloirs.
C'est très inductif.
C'est très inductif. Et dans le rêve d'éveil, en fait, on est à 10 000 lieues de ça. On est dans ce qu'on appelle la non-directivité intervenante, ce qui est assez drôle, mais c'est très jungien comme approche. Et dans cette non-directivité, c'est-à-dire qu'on est lanterne, on se contente d'accompagner la personne, sauf dans deux cas précis, si elle rencontre son enfant intérieur en détresse dans un souvenir, ou si elle se retrouve sur un autre espace-temps que l'on va traiter comme une vie antérieure. Dans ces deux cas seulement, on reprend la main dans l'espace, le temps de poser trois questions pour déprogrammer. Et on redonne le rêve au rêveur, il repart dans son rêve et il termine son rêve tel que lui l'entend. Mais il n'y a aucun vouloir. Et ce aucun vouloir de la part de l'accompagnateur est un ingrédient que j'ai peu trouvé dans les thérapies et qui pour moi est l'essence même qui caractérise le rêve d'éveil et sa puissance transformatrice.
Ça rappelle aussi la démarche de la grotte de Platon.
Exactement.
On va à l'intérieur, on peut être accompagné, mais on y va soi-même.
Tout à fait. Et c'est très clair aussi, de par mon propre parcours, de tout ce qui concerne les maladies, que ce que je crée, la maladie par exemple, je la crée, de par ma psyché qui est encombrée de quelques trucs à un moment donné, ce que je crée, alors je peux le créer, et non seulement je peux le créer, mais je suis la meilleure personne à même de le décréer, puisque je l'ai créé.
En admettant aussi l'information qu'il y a quand même certains symptômes, certaines maladies, où il est quand même nécessaire d'être accompagné par le corps médical aussi.
Alors là, ça c'est très très vrai, et ça n'exclut absolument pas le reste, mais par contre, ça induit le fait que je ne peux pas me donner à l'autre dans une volonté qu'il me guérisse. Il y a vraiment une récupération de ma capacité à me guérir, accompagnée bien sûr par une aide, parce qu'il faut savoir qu'on peut très bien se guérir sur le plan subtil très rapidement, mais que sur le plan physique, ce n'est pas la même histoire. Le plan physique est beaucoup plus lourd, la vibration est beaucoup plus basse et le temps est beaucoup plus long. Et donc, ça, il y a quelquefois un manque de temps et un besoin d'être accompagné au niveau physique pour que ça suive, en fait.
D'où l'importance des médecines conventionnelles telles qu'on les connaît aujourd'hui.
Qui répond, enfin, qui pour moi est là encore au cœur du rêve d'éveil, dans le sens où le rêve d'éveil est très réunifiant et non pas séparant. C'est une énergie qui appelle à nous réunifier, à réinclure dans nos vies tout ce que nous avons voulu exclure. Et à réinclure aussi l'association du subtil et de l'incarné, et donc des thérapies alternatives telles qu'on peut les avoir, mais aussi de tout ce qui est médical, bien incarné. Et les recherches se font sur les deux pôles, et il est très important dans l'heure dans laquelle nous sommes, où les corps physiques sont quand même très malmenés de par les vibrations, les fréquences vibratoires qui augmentent très fort, de pouvoir travailler main dans la main, œuvrer main dans la main.
Avec toutes ces informations, tu proposes également des formations pour le
oui,
coup.
Oui. Alors, ça s'appelle formation, mais en réalité, ça répond au mot de formation dans le sens où on va apprendre comment œuvrer avec les rêves d'éveil, comment s'approprier en fait cette approche de rêve d'éveil. Pour autant, le deuxième titre de la formation, ça s'intitule « Transformation et pacification au cœur de soi ». Parce que oui, on va apprendre comment accompagner quelqu'un dans un rêve, mais on va aussi en même temps le vivre. Donc on va être en même temps accompagnateur et rêveur tout au long de la formation, avec un panel de profils très large. Et du coup, c'est un travail que j'appelle un travail TGV. C'est vraiment un travail à très grande vitesse. Par rapport à une thérapie individuelle, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, dès que l'on va créer ce groupe qui va nous unir pendant 12 jours, 3 fois 4 jours, sachant que chacun va travailler avec son âme, on assiste immédiatement à la descente de l'âme de groupe. Et cette âme de groupe a une intelligence encore plus grande que l'âme individuelle. Et du coup, en fait, comment dire, on n'est pas réunis pour rien, on est réunis parce qu'on est appelés. Donc le groupe est l'exact composant d'un puzzle, chacun étant une pièce du puzzle. Et notre âme de groupe va nous permettre de travailler chacun ce qui est bon pour nous à notre instant précis, sachant que ce que moi je vais dénouer va être aussi une résolution pour mon voisin, et réciproquement. Donc ça va démultiplier le potentiel guérison et le potentiel harmonisation surtout qui peut émerger de ça.
Est-ce qu'il y a des prérequis pour justement participer aux formations ?
Alors absolument aucun prérequis. À aujourd'hui, plus nous avançons, plus il y a de soignants dans les formations, mais ce n'est absolument pas un prérequis. N'importe qui peut venir, qu'il ait une visée professionnels, c'est-à-dire qu'ils veulent se servir du rêve d'éveil dans sa propre activité, sachant que le rêve d'éveil se marie avec pratiquement toutes les approches, qu'elle soit de l'hypnose, que ce soit la sophro, que ce soit les massages, que ce soit, peu importe, toutes les approches de travail sur soi se marient avec le rêve d'éveil. Donc ça, c'est très intéressant, lui permettre d'approfondir encore plus, ou que ce soit simplement, entre guillemets, pour pacifier notre univers intérieur et enjoliver un peu nos vies dans ce désir de créativité qui pourrait ressortir.
Ça a quelque chose de très alchimique, un peu tout ça.
Tout à fait, mais totalement. C'est très, très alchimisant, cette histoire. C'est une alchimie, mais qui se fait de manière simple, en fait. C'est tellement simple. C'est pas, il y a très peu de théorie dans ces formations. Nous allons tout baser sur de l'expérimentation à travers beaucoup de rêves, bien sûr, mais aussi plein d'exercices qui vont mettre en lumière en fait la théorie que l'on veut faire émerger. Du coup, il y aura quelques phrases de théorie, mais très très peu.
Tu parlais tout à l'heure de personnes qui venaient en consultation, notamment d'une personne qui était venue dans un principe de mutisme, qui ne pouvait pas communiquer. Est-ce qu'il arrive que certains se mettent à défaut dans les formations, par exemple, c'est-à-dire que attendre peut-être trop d'eux-mêmes?
Globalement, ça peut être présent au début, parce que c'est quelque chose qui l'habite profondément normalement. Donc ça peut être présent au début, mais il s'avère que il y a tellement de bienveillance et d'accueil inconditionnel de ce qui est comme étant un élément capital pour ce qui doit se dérouler. Il y a vraiment un accueil, c'est plus que l'accueil parce que c'est là, c'est l'accueil parce que ça sert à quelque chose. Et du coup, dès que l'on révèle, dès que cette âme de groupe nous révèle à quoi ça peut servir et en quoi ça peut venir enrichir ce qui est en train de se produire, c'est comme si ça désamorçait toutes ces attentes qui peuvent être nuisibles ou toxiques. Et du coup, ça permet de relâcher beaucoup la pression et d'avancer main dans la main, tous ensemble. En fait, c'est drôle parce que le groupe, pour moi, ça symbolise vraiment toutes les parties de moi avec lesquelles j'essaie de cohabiter. Et là, en fait, on a la partie concrète matérialisée dans le groupe et qui représente en fait ce que j'essaye de faire dans mon propre univers intérieur, quoi.
Créer sa propre pierre philosophale pour être dans la base alchimique.
C'est ça.
Le rêve d'éveil, est-ce que certaines personnes ne peuvent le pratiquer?
Alors oui, dans un cas de pathologie avérée, si le diagnostic a été posé sur de la schizophrénie par exemple, c'est déconseillé puisqu'on a déjà un dédoublement de personnalité et que dans le rêve on va avoir une part de moi qui rêve et une part de moi qui est consciente, donc ça amènerait encore plus de bazar, c'est pas la peine. Donc dans ce cas-là, non, c'est pas conseillé. Ensuite, j'ai pu remarquer que lorsque l'on prend des médicaments du genre anxiolytique ou antidépresseur et même somnifère à forte dose, ça peut ralentir le processus d'incarnation. Ça n'empêche pas du tout le rêve, mais ça peut ralentir l'effet du rêve en fait et obliger à faire plus de travail pour arriver au même résultat. Voilà. La bipolarité, c'est délicat aussi, mais ça fonctionne. Il faut juste être patient, parce que c'est le problème de la bipolarité. Après, il y a toujours le cas de la bipolarité accompagnée au niveau médical, dans lequel ça marche beaucoup mieux, ou non accompagnée, dans lequel il y a ces va-et-vient permanents de « j'avance et je recule ». Mais globalement, il n'y a pas vraiment de personnes qui ne peuvent pas rêver. Mais comme tout support, il y en a qui vont se glisser dans leur rêve et ça va être vraiment leur univers. Il y en a d'autres, ça ne va pas forcément être leur univers. Moi, je préconise vraiment de faire un essai sur 3 séances pour voir un peu si vraiment ça s'amorce et si ça prend du sens. Et si ça ne colle pas, ben, il y a toujours un autre support qui nous attend.
Et justement, donc tu proposes des accompagnements, tu proposes à Moncuc.
Oui.
C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où les personnes, nos auditeurs, pourraient éventuellement te rencontrer? Au niveau des formations, dans quel lieu tu...
Alors,
tu
les formations se déroulent dans le 47, à Saint-Pé-Saint-Simon, c'est à côté de Nérac. Elles peuvent se dérouler ailleurs, si un groupe est déjà formé, par exemple, moi je peux me déplacer, ça c'est tout à fait faisable. Ensuite, les consultations individuelles. Alors, moi je reçois dans mon cabinet à Moncuc, dans mon atelier des rêves à Moncuc, mais aussi en visio. Avec Skype ou Zoom ou n'importe quoi, on peut très bien travailler et ça fonctionne très très bien. Alors j'étais moi la première à dire que non, je ne voulais pas travailler avec. Et en réalité, je me suis rendu compte que ça fonctionnait très très bien. Exactement comme si on était ensemble en fait, avec le trajet à moins, ce qui peut quand même s'avérer être un atout.
La question par rapport à Skype ou Zoom, c'est le cadre. Comment est-ce que le cadre peut être géré pour un accompagnement de rêve d'éveil?
Oh, exactement comme en présentiel, exactement de la même manière. On va faire la même procédure, on va établir l'intention, on va faire tout ça. La seule chose, c'est que si vraiment on a enlevé un très gros morceau pendant le rêve, je vais vraiment inviter la personne qui est arrivée à me tenir informée de l'évolution et si par cas il restait quelque chose à traiter, de ne pas hésiter à revenir vers moi pour qu'on puisse le faire. Mais c'est exactement la même chose en présentiel.
Alors, au niveau actualité, tu as commis quelques ouvrages.
Oui, on peut dire ça comme ça.
Alors, notamment un descriptif « Le rêve d'éveil » co-écrit avec Michel Tabé.
Oui, tout à fait.
Mais également « La jeune fille éléphant ».
La petite fille éléphant. Oui, alors le premier livre, Le jeu rêve d'éveil, sorti en 2015 aux éditions Quintessence, et il parle vraiment de l'approche du rêve d'éveil et avec beaucoup de support en exemple, d'exemples en support plutôt. Et le deuxième, La petite fille éléphant, c'est vraiment le pur fruit du rêve d'éveil, dans le sens où personnellement je ne suis absolument pas écrivaine. Et par contre, c'est le fruit d'une expérience que nous avons menée avec Michel Tabé. On a fait plusieurs rêves, cinq rêves sur une année, des rêves à deux, avec un enregistreur. Ces enregistrements, je les ai traduits par écrit. Et puis, c'est resté. Donc, sur le coup, c'était vraiment pour explorer le potentiel de l'âme de couple. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec, en quoi c'était enseignant dans nos vies, et ça a été très révélateur. Et puis, plusieurs années plus tard, je suis tombée sur ce document, et en le lisant, en relisant les cinq rêves, les uns derrière les autres, je me suis rendue compte que ça donnait la trame d'un roman. Et d'un seul coup, c'est révélé, mais vraiment une ouverture. J'ai rêvé le livre, il n'y a pas d'autre mot, j'ai rêvé le livre. Et c'est sorti. Et du coup, ça s'appelle « La petite fille éléphant ». C'est un roman... que j'estime, de par les commentaires qui sont revenus, très guérisseurs. C'est...
Aux éditions ?
Alors là, par contre, c'est une auto-édition chez Amazon. Oui.
Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez soit aller sur le site de Rêve d'éveil, soit aller sur le site dont on ne citera pas le nom à l'entête.
C'est ça.
En actualité, je crois savoir que le 23 juillet, samedi 23 juillet, donc très prochainement, tu proposes une conférence au musée Armand Viré à Luzèche.
Oui.
C'est... Également suivie d'un atelier et d'une séance de dédicace.
C'est ça, je me réjouis d'avance de ce petit moment de partage avec les personnes. Donc la première partie sera une conférence qui est plus d'ailleurs un jeu de questions-réponses, hein, où je répondrai avec grand plaisir aux questions qui peuvent émerger concernant le rêve d'éveil. Et la seconde partie, la plus intéressante à mon goût, c'est que nous allons tester évidemment un rêve d'éveil et des jeux. Je ne sais pas exactement de combien de temps on va disposer, mais je pense qu'on aura quand même toute l'après-midi. Et donc on va pouvoir tester ça en direct et voir un peu qu'est-ce que ça fait.
Donc pour ceux qui sont curieux et qui souhaiteraient découvrir par la même Sylvie Gavilan et le rêve d'éveil, ça se passera samedi 23 juillet à partir de 14h au musée Armand Viré à Luzèche,
oui.
En lien avec la médiathèque de Luzèche pour tout renseignement bien sûr.
Et pour réservation puisque Marie...
Et sur réservation,
oui, aimerait bien
sûr,
qu'on puisse réserver, oui.
Voilà, par rapport à l'atelier.
Ouais.
Nous arrivons au terme de cette émission, Sylvie, le mot de la fin.
Le mot de la fin. Oh, je me réjouis de ce terme que vous avez, de cette appellation de cette émission, fenêtre sur soi, parce que pour moi, elle correspond exactement à ce qui se passe dans le rêve d'éveil. C'est qu'on ouvre une fenêtre sur soi et que l'on part à la découverte, à notre propre rencontre. Donc, un grand merci d'ouvrir cet espace à tout type de personnes. C'est très important par les temps qui courent. Nous sommes tellement confrontés à ces tiraillements, à cette dualité qui s'avère de plus en plus forte et de plus en plus douloureuse, qu'il est, je trouve, fondamental de créer des espaces dans lesquels nous puissions revenir à nous, nous réunir et réapprendre à aimer ce que nous sommes, tel que nous sommes. Car je trouve que l'imperfection est juste une perfection pour moi.
Tu parlais tout à l'heure de guérison d'amour. Quant à moi, je vais vous quitter. On va se laisser, on va aller rêver tous ensemble.
C'est ça.
Aller rêver, aller se guérir par l'amour de notre âme, l'amour de notre cœur, puisque le cœur et l'âme ne faisant qu'un. Et sur ce, je vous souhaite à tous du sourire dans votre tête et des soleils dans votre cœur. C'était Daniel en compagnie de Sylvie Gavilan.
Merci.
À très vite.